France Culture.
A litany for survival. For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone, for those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways, coming and going in the hours between dawns, looking inward and outward, at once before and after, seeking nows that can breed future, like bread in our children's mouths, so their dreams will not reflect the deaths of ours.
Pour nous, qui avons été marqués par la peur, fine ride au milieu de nos fronts, nous qui l'avons tétée au sein de nos mères, car par cette arme et illusoire recherche de sécurité, les pieds bottés espéraient nous faire taire. Pour nous toutes, cet instant et ce triomphe, nous n'étions pas censés survivre. Et quand le soleil se lève, nous avons peur qu'il disparaisse. Quand il se couche, nous avons peur qu'il ne se lève pas le lendemain. Quand nos ventres sont pleins, nous redoutons l'indigestion. Quand ils sont vides, nous craignons de ne plus jamais avoir à manger. Quand nous aimons, nous avons peur que l'amour s'évanouisse. Quand nous sommes seuls, nous avons peur qu'il ne revienne jamais. Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus ni accueillis. Mais quand nous nous taisons, nous avons peur aussi. Alors mieux vaut parler et se rappeler que nous n'étions pas censés survivre.
Audre Lorde was a fireball.
Audre Lorde était une boule de feu.
If you were in her sight, you understood yourself as being in the presence of.
Quand vous étiez avec elle,
someone who was powerful.
Vous compreniez tout de suite que vous étiez en présence de quelqu'un de très puissant.
A woman who was powerful.
D'une femme puissante.
A black woman who was powerful.
D'une femme noire puissante.
Words came to her like breathing.
Les mots lui venaient comme on respire.
You breathe to survive.
On respire pour survivre.
Audrey wrote poetry to survive.
Audrey écrivait de la poésie pour survivre.
Elle redonne des capacités de faire, de se reprendre en main, d'être actrice de sa vie. Il y a un souffle. Je sens ça, cette force-là qui est propulsée, qui vient secouer, qui vient remettre debout quand on était par terre, qui aide à panser ses plaies et à continuer. We are moving on.
I started out like all of us start out, a coward, afraid.
J'ai commencé comme tout le monde, peureuse et craintive.
It's not to say I'm not afraid now.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur maintenant.
Whether I am afraid or not, I count less. I value myself more than
j'ai
I value
d'estime pour
my terrors.
Moi que pour mes peurs.
It mm-hmm. does not mean I don't have them.
Ce qui ne veut pas dire que je n'en ai pas.
Once I take that position, I can look
j'ai
at
pris
them
cette position,
and see
je peux les regarder
what it is they teach me.
Et voir ce qu'elles m'enseignent.
De New York aux Caraïbes, de ses premiers poèmes à Zami, de Sister Outsider à Un souffle de lumière. Audre Lorde, poète guerrière.
Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtre? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi. Une poète, guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre ? Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on nous défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans nos abris, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur.
Le premier silence que Audre Lorde a subi en tant qu'enfant, c'était le racisme. Ses parents pensait la protéger en ne lui racontant pas, en ne lui expliquant pas l'existence du racisme. Donc ça tient un certain nombre d'années. Quand on est dans l'école avec tous des petits copains et des petites copines comme nous, ça peut tenir. Et puis un jour, ça pète, évidemment. Mais elle était déjà assez grande quand même. Elle était assise dans un métro, à côté d'une dame blanche. Et la dame blanche regardait dans sa direction comme s'il y avait quelque chose de sale qui avait coulé. Elle tirait son manteau. Et Audre Lorde essaie de regarder, mais qu'est-ce qui diable la dérange pareillement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a coulé ? Est-ce que je la... Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait, c'était sa simple présence de gamine noire qui était la souillure qui était à côté de cette femme blanche. Je ne sais pas si vous imaginez le choc pour un enfant de comprendre que c'est ça qui est en train de se passer. C'est quand même assez dramatique comme chose. Ils se sont fait aussi chasser d'un magasin qui vendait des glaces. À Washington DC, ils ont voulu entrer dans un magasin, ils se sont fait foutre dehors parce que non, les Noirs viennent pas acheter des glaces dans mon magasin, exit stage left. Donc elle a pris à la dure. Et je crois que c'est à l'origine de sa compréhension de dire que le silence ne m'a pas protégée et ne vous protégera pas non plus. C'est vraiment sur la problématique du racisme que ça a débuté pour elle.
Elle a commencé à parler à 5 ans. Elle avait un problème de bégaiement. Et ce qui lui a permis de s'exprimer pleinement, ça a été de dire sa poésie. C'est son accès au langage qui s'est fait par la poésie.
Elle parle souvent de feeling. C'est pas tant émotion que ce que l'on sent, ce que l'on ressent, ce qui est profond, sensuel, une expérience sensible qu'elle veut récupérer et donc mettre en mots, tout d'abord, bien sûr, en poésie. On part du silence brisé, sur ce silence brisé arrive une parole, et cette parole, il ne faut pas en rester là, bien sûr, parler ne suffit pas, il faut agir. Donc la parole doit se transformer en action. Et donc c'est difficile, si vous voulez, de faire le partage entre ce qui serait simplement un engagement d'écrivain et un engagement politique. C'est quelqu'un qui est vraiment une femme engagée politiquement à travers son écriture. C'est une femme qui parle de poésie comme un acte révolutionnaire.
When you are born black and female in a society that defines humanness as white and male,
quand vous naissez noire, une femme noire dans une société qui définit l'humain comme blanc et masculin,
we recognize very
vous reconnaissez
early
très vite
that survival is not a
que la survie n'est pas une question
problem.
Théorique.
It is a problem of day-to-day living.
Mais une bataille de tous les jours.
We learn that we are in danger,
nous apprenons que nous sommes en danger,
always at risk,
tout le temps dans le risque.
And that lends a certain commitment
et cela
to every
demande un certain engagement dans tous les aspects de nos vies.
And poetry is part of my living. It's part
et la poésie
of my
est une partie
arsenal.
De ma vie.
It is one of my weapons,
une de mes armes
by which I attempt to change what must be our common future.
L'arme avec laquelle j'essaie de transformer notre avenir commun.
Les lecteurs se relient à l'écriture d'Audre Lorde parce que celle-ci couvre toute l'amplitude de l'expérience humaine. Les joies, les tristesses, les blessures, l'angoisse, le désespoir, les connexions ancestrales, les rêves inaccomplis, les injustices et les espoirs révolutionnaires que les lecteurs ont vécu eux-mêmes, soit de manière directe, soit par procuration.
Lord understood poetry as an essential way of being human.
Pour elle, la poésie était une façon essentielle d'être humain.
And I think she also understood it as an accessible form.
Et elle pensait que c'était une forme accessible.
She talked about once the fact that you can write poetry while riding the subway in New York City.
Elle disait qu'on pouvait écrire de la poésie tout en étant dans le métro à New York.
I think in that way, Lord communicated.
Et de cette façon,
a tradition as black poet.
Elle a transmis une tradition de poète noir dont elle fait partie.
Lord's contribution, however, to these traditions
is situated in the fact that she dans ce mouvement
wrote as a lesbian.
Est liée au fait qu'elle est écrite en tant que lesbienne.
Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter, dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme, ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà. La poésie est comme une révélation. Car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience, surgit de la véritable poésie, donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. En chaque femme. Il est un lieu sombre d'où s'élève, caché et grandissant, notre véritable esprit, magnifique et dur comme un marron, rempart contre le cauchemar de notre faiblesse et de notre impuissance. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoirs et rêves, d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes.
Because the world is round, it turns me on.
Femme qui vivait d'une façon libre, qui établissait les rapports avec qui elle voulait, quand elle voulait, qui ne se laissait pas mettre dans des petites boîtes rangées, bien propres, dans un coin. C'est vrai que son langage, très libre aussi, autorise l'autre en face à pouvoir répondre au même niveau. Quand elle donnait ses cours, par exemple, en Allemagne, ou quand elle lit sa poésie, on sent les autres palpiter avec elle. Elle a dans certaines de ses poésies, des descriptions érotiques sur les relations entre femmes qui donnent la force aux autres, éventuellement aussi, d'oser en parler. Bon, ça a commencé d'une manière assez comique, parce que le premier poème érotique qu'elle avait écrit a été publié dans un petit journal du collège, l'université où elle était, mais étudiante à cette époque. Et le rédacteur en chef voulait pas croire que c'était une fille qui avait écrit ça. Enfin, il y avait toute une confusion. Du coup, il ne le voulait pas. Enfin, mais comment? Mais ce n'est pas possible. Mais c'est il, c'est elle. Enfin, vous voulez certainement tourner ça autrement. Donc, ça commençait mal, si vous voulez. Mais elle a tenu bon. Et après, elle a autorisé d'autres, finalement, à faire pareil également. Donc, il y avait toujours cette force assez électrique dans la prise de conscience de la force de mon corps, de mon érotisme, de qui je peux être.
She was very seductive.
Elle était très séductrice.
Very sensual.
Très sensuelle.
And women would just go crazy.
Elle rendait les femmes folles.
She had a kind of charisma.
Elle avait une forme de charisme.
That was very attractive.
Très attirant.
It was very sexual.
Très sexuel.
She also had a fire.
Elle avait un feu en elle.
And she knew that women.
Elle savait que les femmes l'adoraient.
She adored women as well.
Et elle adorait les femmes.
Les femmes doivent récupérer cet érotisme-là pour elles-mêmes, en faire une force. On nous a volé quelque chose qui nous est propre et nous devons le récupérer, le recouvrer. Il y a un mouvement chez elles où on doit reprendre quelque chose dont on ne sait même pas qu'il est là, puisque ça nous a été interdit pendant tellement longtemps que on l'a même oublié, on ne sait pas que c'est là. Donc il faut aller le recouvrer.
Il faut aussi resituer quand et où elle écrit, et que c'est une force contre des interdits. D'abord que les femmes noires ne parlent pas d'érotisme, et la même chose pour la spiritualité. De faire appel aux dieux et aux déesses, aux esprits de la mer et de la forêt et de la terre, et de se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans une espèce d'écosystème, d'un système qui est vivant et non pas donc mort. C'est s'intéresser au monde autour de soi, et pas donc d'un monde dur, froid, fait simplement de choses matérielles, mais fait effectivement de choses où ce qu'elle appelle l'érotique et ce qu'elle appelle donc la spiritualité interviennent. C'est de parler, de se faire entendre sur des terrains sur lesquels on ne nous attend pas, ou même non seulement on ne nous attend pas, mais on ne devrait pas occuper.
Parle, terre, et bénis-moi de ta richesse. Par le ciel, fais couler le miel d'entre mes hanches érigées comme des montagnes, bordant une vallée sculptée par la bouche de la pluie. Et j'ai su en la pénétrant que j'étais le vent qui souffle au creux de ces forêts, doigts qui murmurent, miel qui s'écoule de la coupe fendue, empalée sur la lance des langues, sur la pointe de ses seins, sur son nombril, et mon souffle qui hurle dans son vestibule au travers de poumons de souffrance. Vorace comme les mouettes, ou comme une enfant, je rejaillis, encore et encore, sur la terre ferme.
Of her breasts, on her navel, and my breath howling into her entrances through lungs of pain. Greedy as herring gulls or a child, I swing out over and over again.
Le son, le rythme va être primordial. Donc en gardant cette chose-là de la langue, qui est son épaisseur justement sensorielle, et de la voix, hein, l'oralité, on continue cette proximité d'un intime qui est un intime excessivement personnel et ancré dans une singularité. Ça correspond aussi au Black Arts Movement, où la poésie noire américaine doit retrouver ses origines, donc on doit lire littéralement presque au coin de la rue, s'adresser à un auditoire dans des lectures publiques et les toucher par cette parole directe, en chair et en os.
C'est une battante. Elle a une présence très très forte quand elle déclame sa poésie. Elle parle des inégalités sociales, elle parle du racisme, elle parle du sexisme. Et elle en parle d'une façon tellement directe qu'on ne peut pas se sentir pas concerné. Il y a du chant dans la voix, il y a du rythme. On s'emporterait avec elle, quoi.
When I was just a little girl, I asked my mom.
mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.
Je me rappelle ce que ça faisait d'être jeune, noir, homo et seul. D'un côté, c'était super. J'avais l'impression de détenir la vérité, la lumière, la clé de quelque chose. Mais de l'autre côté, c'était franchement l'enfer. Il n'y avait ni mère, ni sœur, ni héroïne. Il fallait se débrouiller seul, comme les Amazones, cavalières aux avant-postes les plus éloignés du royaume de Dahomey. Dans le village des années 50, je connaissais à peine les quelques autres femmes noires ouvertement lesbiennes. Trop souvent, nous nous retrouvions dans le lit des mêmes femmes blanches. Nous nous reconnaissions mutuellement comme des êtres exotiques, associés dans leur étrangeté, mais qui avaient peu à gagner à se regrouper. Peut-être notre force résidait-elle dans nos faibles effectifs, notre rareté.
Je l'ai entendu plusieurs fois. Une fois, c'était sensationnel, c'était à Londres. Il y avait donc une foire internationale du livre féministe qui avait lieu là-bas. Et en fait, les billets avaient été vendus à l'avance. Et il n'y avait pratiquement que des femmes blanches qui avaient rempli la salle. Et Audre Lorde était Furax de chez Furax. Et elle a fait vider toute la salle, rembourser tous les billets et faire re-rentrer sur une base équitable. Ça a pris juste 2 ou 3 heures, ce petit cirque. Mais elle y est néanmoins arrivée. De sorte que les femmes noires qui étaient venues pour l'écouter puissent aussi l'entendre. Et en effet, c'était incroyable. Donc il y avait une ambiance totalement électrique dans la salle au moment où elle a commencé. Elle venait de vivre elle-même une expérience sur ce que c'est que le racisme. Certaines n'avaient peut-être pas pu rentrer dans la salle, d'autres avaient pu enfin rentrer dans la salle alors qu'elles constataient qu'elles n'y seraient pas rentrées si Audre Lorde n'avait pas mis cette exigence. Donc on était déjà dans l'actualité d'une certaine façon. On ne parlait pas d'un ailleurs, on parlait d'ici même. Ses propos étaient d'autant plus parlants pour chacune de nous qui étions dans la salle. Elle lâchait rien. Alors, c'était pas toujours facile, hein, et ça lui coûtait certainement sur le plan de la santé, parce que c'est rude quand même. Je l'ai vue aussi à Berlin passer des heures à parler avec des femmes blanches, à leur demander à chacune, et toi, qu'est-ce que tu comprends du racisme? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le racisme? Elle se tapait leur platitude et leurs préjugés. Misère, il faut avoir du cran. Si vous avez des problèmes avec les féministes blanches et leurs difficultés à reconnaître l'existence du racisme, mais aussi du classisme, hein, donc des différences sociales très importantes. Mais elle avait aussi un problème du côté des hommes noirs militants qui lui disaient qu'elle perdait son temps à militer sur des questions femmes, que ça c'était secondaire. Elle avait donc des problèmes de loyauté d'un côté comme de l'autre, suivant ses différentes facettes de sa vie. Mais en même temps, c'était une pédagogue. Hein, donc elle a quand même enseigné, elle a travaillé à l'université. Donc c'est vrai que pour elle, le côté pédagogique avait de l'intérêt.
Elle n'est pas du tout dans un discours de culpabilisation où elle dit « la culpabilité, ça mène à rien. Je n'ai pas besoin de votre culpabilité. Par contre, soyez conscient de vos privilèges et à partir de là, qu'est-ce que vous faites de vos privilèges ? Donc, utilisez vos privilèges pour transformer les choses. » Donc, c'est vraiment un appel à agir en conscience. C'est une parole qui est très, très exigeante par rapport aux personnes blanches, pour leur dire « prenez vos responsabilités et agissez ». Et pour les personnes racisées, C'est une parole qui fait du bien, qui donne de la force, qui aide à panser ses plaies et surtout qui libère de la puissance et de l'énergie. Cette notion qu'on a beaucoup de mal à traduire en français, « empowerment », que moi je traduirais par « redevenir actrice de sa vie », déployer sa pleine puissance.
C'était très clair pour Audre Lorde. Elle était une féministe noire, lesbienne.
White feminists at the time,
à l'époque, les féministes blanches
did not articulate
n'avaient pas élaboré
an analysis of themselves
une analyse d'elles-mêmes en tant que blanches.
And many of them today
et jusqu'à aujourd'hui,
don't.
Il y en a beaucoup qui ne le font pas.
So Lord was taking on two major movements at the time.
Audre Lorde a affronté deux mouvements principaux, le mouvement féministe blanc
the black civil rights movement.
Et le mouvement pour les droits civiques.
Elle ne demandait pas non plus que tout le monde soit pareil. Ce n'était pas du tout une question d'uniformité des femmes, pas du tout. Et donc, reconnaître la position des unes et des autres, mais de voir comment, effectivement, tout ça pouvait devenir constructif et comment ça pouvait se transformer, non pas en impuissance, mais en puissance. Et ce terme de puissance, de transformer les différences en puissance, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que c'est comme ça que se construisent des alliances. Tout le black féminisme américain se pose sur l'alliance. La séparation, la division, elle ne vient pas. Je veux dire que ce soit Angela Davis, June Jordan, Bagama Christian ou Audre Lorde, ce sont des femmes qui ont toujours lutté pour les alliances.
En tant que femme, on nous a éduquées soit à ignorer nos différences, soit à les considérer comme des motifs de division et de méfiance, plutôt que comme des forces de changement. Sans communauté, il n'existe pas de libération, mais seulement un armistice des plus fragiles et précaires entre un individu femme et son oppression. Mais communauté ne veut pas dire abandonner nos différences, ni prétendre lamentablement que ces différences n'existent pas. Celles d'entre nous qui sont hors du cercle des femmes acceptables, telles que cette société les définit, celles d'entre nous qui ont été forgées dans les flammes de la différence, celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont âgées, savent que la survie n'est pas une aptitude universitaire. Il s'agit d'apprendre à rester debout toute seule, haïe et parfois insultée. Apprendre à faire cause commune avec toutes les personnes manifestement hors du système, afin d'imaginer et de construire un monde dans lequel nous pourrons toutes nous épanouir. Il s'agit d'apprendre à accepter ces différences et à les muer en force. Car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Dans notre monde, diviser pour régner doit être remplacé par imaginer et prendre le pouvoir. Simone de Beauvoir a dit: c'est en reconnaissant la véritable nature de nos conditions de vie que nous trouverons la force de vivre et des motivations pour agir. Le racisme et l'homophobie forment la véritable trame de nos existences en tout lieu et à toute heure. J'exhorte chacune d'entre nous présentes ici à descendre au plus profond d'elle-même pour atteindre la terreur et le dégoût de toute différence qui s'y terre, et de voir quel est son visage. Alors seulement, le personnel comme le politique pourront commencer à éclairer tous nos choix.
Je pense que Lorde percevait sa propre différence en tant qu'enfant d'immigrés.
gifts as a writer.
Mais aussi à travers son don en tant qu'écrivaine.
In her family, she
dans sa famille,
saw herself different from her
elle se sentait différente de sa mère et de ses
that
sœurs
she saw herself as dark-skinned
parce qu'elle avait la peau plus noire dans une famille à la peau plus claire.
And that she understood her emerging sexuality
et
as lesbian
en tant que lesbienne,
in
elle percevait
a
également sa sexualité naissante au sein d'une société hétéronormée
as the site, as also a site
comme un
of
point de différence.
These became powerful
et donc,
tools.
Ces notions de différence sont devenues des outils puissants.
And Lord sought to make use of them
et Lord
as part
s'est employé
of her
à les utiliser
agenda.
Dans sa vie de militante.
I would say both the marriage to the father of the children.
Je pense que à la fois son mariage avec le père de ses enfants,
Frances Clayton,
puis son union avec sa compagne Frances Clayton,
went towards shaping Lord's theory of difference.
Lui ont permis d'élaborer ce concept de différence.
Dans Sister Outsider, elle parle d'élever un garçon. D'une certaine façon, c'est des choses qui restent aussi très actuelles aujourd'hui. Parce qu'on est féministe, est-ce qu'on devrait toutes être lesbiennes séparatistes pour autant? Ou bien est-ce qu'on pourrait être féministe et éventuellement envisager quand même d'avoir une liaison et éventuellement d'avoir des enfants? Et qui plus est, elle a épousé un homme blanc. Ça complexifie. Et en effet, elle a élevé deux enfants au sein de cette famille, puis elle s'est séparée de lui, elle a vécu avec plusieurs autres partenaires par la suite, qui étaient plutôt des femmes. Je crois que le mouvement queer, aujourd'hui, peut être plutôt content du type de discours qu'elle avait, bien que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, de refuser d'être mise dans ces petites boîtes. Moi, ce qui m'a touchée le plus chez elle, c'est sa manière de faire les liens entre les différentes formes d'oppression. La difficulté, c'est de vivre avec toutes les facettes de nous-mêmes et de ne pas être dans un milieu uniquement une femme noire ou dans un autre une lesbienne ou dans un troisième une auteure, dans un quatrième une mère, etc., etc. Mais d'essayer de rassembler toutes nos facettes sans se laisser diviser sur ces différents aspects parce qu'elle pensait que ça donne du pouvoir, que quand on se coupe d'une partie de nous, quand on néglige un bout pour faire une concession, pour être plus accepté par l'autre, en fait, on se met dans une position dans laquelle on va perdre du pouvoir, on ne va plus arriver à parler vrai et à parler de nos tripes.
Elle va parler de la responsabilité par rapport au fait d'élever des enfants noirs, d'élever un garçon noir. Elle va dire que les femmes noires en ont assez presque d'avoir été des ponts. Elles veulent s'arrêter d'avoir été celles qui colmatent finalement. Elle en appelle, si vous voulez, à la responsabilité des hommes noirs pour élever de jeunes garçons noirs, pour que ces jeunes garçons noirs intègrent le féminisme, ne se retournent pas contre leur mère, ne se retournent pas également contre eux-mêmes. Quelles sont les responsabilités de parents noirs américains par rapport à leurs jeunes enfants? Comment les élever dans ce monde-là où leur corps est la chose la plus vulnérable au monde?
La différence entre la poésie et la rhétorique, c'est quand on est prête à se tuer soi-même plutôt que de tuer ses enfants. Je suis coincée, dans un désert de plaies à vif, impact de balles. Un enfant mort traîne son visage noir, explosé aux confins de mon sommeil. Le sang qui coule de ses joues perforées et de ses épaules est le seul liquide à 100 lieues à la ronde. Et mon ventre gargouille à l'idée de le boire tandis que ma bouche s'entrouvre, lèvres sèches, sans loyauté ni raison, assoiffée de ce sang juteux qui s'écoule dans la blancheur du désert, où je suis perdue, sans image ni magie, et où j'essaie de transformer en puissance la haine et la destruction. J'essaie de soigner mon fils mourant avec mes baisers, mais le soleil plus vite blanchira ses os. Un policier qui a abattu un enfant de 10 ans dans le Queens s'est penché sur le garçon, ses chaussures de flic baignant dans le jeune sang, et une voix a dit « Crève, sale petit connard !» Et il y a des cassettes pour le prouver. À son procès, le policier a déclaré pour sa défense
J'ai pas fait gaffe à la taille, ni à rien d'autre, juste la couleur. Et là aussi, des cassettes sont là pour le prouver. Aujourd'hui, cet homme blanc de 37 ans, 13 années de police derrière lui, a été libéré par 11 hommes blancs qui se sont déclarés satisfaits. Justice avait été rendue. Et une femme noire qui a dit « Ils m'ont convaincue ». Ce qui voulait dire qu'ils avaient traîné sa carcasse de femme noire, 1m47, sur les charbons ardents de 4 siècles de domination blanche et masculine, jusqu'à ce qu'elle lâche le seul véritable pouvoir qu'elle ait jamais eu et emplisse son propre ventre de béton pour y ensevelir nos enfants. Je ne parviens pas à mettre le doigt sur la destruction en moi. Mais si je n'apprends pas à me servir de la différence entre poésie et rhétorique, ma propre puissance en sera bientôt contaminée et deviendra poison, pourriture ou bien retombera toute molle sans vie comme un câble déconnecté. Et un jour, je saisirai ma fiche tumescente et la brancherai à la prise la plus proche et violerai une femme blanche de 85 ans qui est aussi une mère. Et tout en la battant à mort et en mettant le feu à son lit, j'entendrai un chœur grec chanter sur un rythme ternaire. La pauvre, elle n'avait jamais fait de mal à personne. Quelle bande de sauvages!
Penser que la colère est un sentiment politique, c'est-à-dire un sentiment qui ouvre sur l'action politique, quelque chose est insupportable, vous met en colère, et la colère est souvent associée, on le voit bien, il faut parler calmement, tranquillement, il ne faut pas se mettre en colère, dès que vous mettez en colère, mais vous êtes hystérique, et c'est en fait faire taire ce sentiment qui est si profond. Sans colère, il n'y aurait pas de changement. Sans colère, il n'y aurait pas ce désir de sortir de chez soi, de descendre dans la rue. On vit dans un monde quand même où ça fabrique le consentement à la haine, le fabrique le consentement au silence. Et donc de briser cela, c'est absolument un acte d'un grand courage.
Et la colère est l'un des 7 péchés capitaux chez les chrétiens, et certainement le péché capital le plus avec la luxure, le péché, tout ce qui a à voir avec le corps, particulièrement aux États-Unis où le poids de la religion est extrêmement fort, où la constitution américaine repose sur un certain nombre de pensées, une pensée religieuse.
Du fait d'être dans ce focus-là, d'affirmer sa puissance de vie et d'être créatrice et d'agir au monde, et de pas être dans quelque chose de mortifère, ça permet justement de canaliser sa colère dans quelque chose qui est créatif, constructeur, et pas dans quelque chose qui vous détruit. Quand vous êtes parmi des groupes opprimés, discriminés, la colère, elle est très très forte, la révolte est très très forte, et vous pouvez, bon, on voit bien ce qui peut se passer dans les banlieues, hein, où vous brûlez les voitures de vos voisins, vous détruisez votre propre milieu de vie, vous retournez cette violence et cette révolte contre vous-même. Et ce que je trouve de fort, c'est que l'ordre, elle montre ça, et elle montre un chemin pour sortir de ça, et ce chemin, c'est pas du tout théorique, c'est l'exemple de sa vie. Maman, elle dit, j'ai léché les lèvres d'une louve, et sa colère aurait pu la dévorer. et la détruire. Et elle explique comment, effectivement, avec le soutien d'autres femmes qui la côtoyaient, elle a pu prendre soin et diriger sa colère contre les objets de sa colère et pas contre elle-même ou contre ses sœurs de lutte.
Je ne dirais pas qu'Audrey Lorde était une femme en colère. En tout cas, pas avec l'idée que c'était quelqu'un qui était tout le temps furieuse. Je ne dirais pas ça. Mais je pense que n'importe quelle personne qui grandit noire aux États-Unis et qui est consciente d'être noire au sein d'une société blanche va être obligée de négocier la façon dont la situation leur fait ressentir de la colère.
Only after I feel a redistribution of the wealth in this country, only after we eradicate the exploitation of man by man, can we begin to build a humane society, both for black, brown, and white people.
Drawn and the curse it is cast. This slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
I do not wish my anger and pain and fear about cancer to fossilize into yet another silence, nor to rob me of whatever strength can lie at the core of this experience, once it is openly acknowledged and examined.
Je n'ai aucune envie que ma colère, ma douleur et ma peur du cancer ne se fossilisent en un nouveau silence, au point de me priver des forces qui peuvent jaillir de l'expérience, une fois celle-ci admise et analysée. À l'intention des femmes de tous âges, de toute couleur de peau et de toute identité sexuelle, qui estiment que chaque fois qu'on nous impose le silence, dans quelque domaine que ce soit, cela nous divise et nous affaiblit, pour toutes ces femmes, donc, et pour moi-même, j'ai essayé de formuler ici mes sentiments, mes idées, sur la vaste mascarade des prothèses, sur la douleur de l'amputation, la fonction du cancer dans une économie de profit, l'affrontement de la mortalité, enfin, sur la force de l'amour des femmes et la puissance, la satisfaction qu'apporte une vie menée en toute conscience.
Lorde was diagnosed with breast cancer. La première fois qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein, c'était à la fin des années 70.
And she was able to be victorious over breast cancer.
Et elle a surpassé ce cancer.
Because she had a deeply fighting spirit.
Parce qu'elle avait un esprit combatif très fort.
And she lived for good almost 10 years before the cancer.
Elle a vécu une bonne dizaine d'années avant le retour du cancer. Et ses métastases au foie.
Lord was like a whirlwind. She was
pendant ces années,
very productive.
Elle a été très productive.
She really comes into her power as
c'est à ce moment-là
a public figure.
Qu'elle prend toute sa dimension de figure publique.
She becomes internationally
elle devient connue et respectée au niveau international.
And she produces some of her greatest works.
Et elle écrit certaines de ses œuvres les plus belles.
Le port de la prothèse, pour elle, était quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire quand on est opéré, on reçoit une visite d'une dame bien pensante qui vient nous dire « bon ben voilà, vous allez pouvoir vivre exactement comme hier, rien n'a changé ». Donc voilà, je vous prête cette petite prothèse. Par la suite, si vous voulez, vous pourrez aussi vous faire opérer, ce sera encore mieux, etc., etc. Donc il y a une espèce de tendance de faire comme si rien ne s'était passé, de rester féminine de la même manière et d'ignorer complètement ce qu'on vient de vivre. Or, pour s'approprier sa vie et pour pouvoir éventuellement rebondir et survivre dans de bonnes conditions, reprendre du poil de la bête, il faut peut-être pas faire semblant que rien ne s'est passé, il faut peut-être regarder justement ce qui s'est passé, essayer de comprendre comment on est arrivé là, comment ça nous impacte et comment on pourrait se relever. Donc ça, c'est un des aspects pour lequel elle voulait pas apporter la prothèse. Et puis l'autre, c'est parce que ça nous coupe des autres. Donc elle voulait que les femmes puissent se reconnaître entre elles pour pouvoir éventuellement échanger. Donc si chacune doit faire semblant qu'il lui est rien arrivé et vivre toute seule dans son coin, c'est quand même, un, humiliant, deux, ça les empêche de se construire. Et ça les empêche de travailler sur les choses sur lesquelles il y aurait à travailler, lutter ensemble contre les facteurs environnementaux, ou bien se remonter le moral et se tenir les coudes face à l'adversité. Beaucoup de maris partent quand les femmes ont le cancer du sein. Donc elles se retrouvent avec des problèmes économiques, le mec est parti, il y a éventuellement des enfants à charge, c'est une sacrée baffe dans l'existence. Et il faudrait toutes faire semblant que tout va bien, qu'on a toujours deux beaux seins. Happy ever after.
Ce sont des choses dont on ne parle pas, pas des choses sur lesquelles on écrit, pas des choses sur lesquelles on publie. C'est parler de son corps, c'est mettre son corps sur la place publique, premièrement, mais c'est mettre aussi sa faiblesse qu'entraîne cette maladie sur la place publique également. Tout cela fait partie d'un ensemble. Mmh. C'est la reprise en main de son droit à l'expression, le droit à exprimer tous les sentiments, la colère, la souffrance, la peur, l'incompréhension, l'amour, l'érotisme, la relation charnelle avec les autres, le conflit, tout ça, c'est comment être totalement une femme, un être humain.
Ce jour n'est pas encore le jour. Ce pourrait l'être, mais non. Aujourd'hui est aujourd'hui. Dans le matin tôt qui s'agite, le soleil se répand sur la ferme qui croît dans mon ventre. Il éclaire les ruelles soigneusement balayées de la ville qui pousse dans mon foie. Enchevêtrement de vaisseaux gonflés par l'offrande de Mère Maou ou de son espiègle fille Afrékété. Afrékété, mon aimée. Laisse-toi envelopper par le soleil de mes jours, mêlant nos chemins. Il nous faut porter l'eau, cueillir le miel, planter les graines colorées pour le prochain marché. Nous flânerons, échangeant des huiles parfumées, frottant mutuellement nos jambes desséchées, la lumière du soir, un croissant accroché à tes pommettes. Il suffit de se lever, et une partie de nos tâches est déjà presque accomplie. Le goût de l'amour, un peu de travail, des fous rires, les roues de ma voiture frôlant la ligne médiane, mes cils sont en feu. Et Gloria, Gloria, toi dont j'apprends la différence, avec l'amour d'une sœur, toi dans mes yeux l'éclat de l'appétit, lumière qui joue le long de tes muscles lorsque tu te balances. Aujourd'hui pourrait être le jour. Je pourrais lâcher les amarres et dériver jusqu'au bout de la jetée, délover dans l'eau les cordages, vaisseau de lumière, clairière de lune, voguer sur les courants jusqu'au coucher du soleil et, quand je ne serai plus là, une autre inconnue te trouvera, lovée dans le sable chaud, trésor échoué, et t'aimera pour ces différentes histoires que tes mères racontent. Et les fleurs à demi écloses que ma saison a fait naître continueront à exhaler leur parfum dans un bourdonnement réconfortant. Mais ce jour n'est pas encore le jour. Ce jour.
Thank you.
1980s, 1986, she decides to move to St. Croix.
En 1986, elle décide de partir habiter à Sainte-Croix et d'abandonner sa vie aux États-Unis. Elle revient aux racines de sa famille caribéenne. Elle a trouvé, aux Caraïbes, l'héritage de son côté maternel. Même si ses deux parents venaient des Caraïbes, son père de la Barbade, sa mère de la Grenade, c'est quand elle se rend dans l'île de Carriacou qu'elle découvre le terme « zami ». Zami, qui signifie des femmes qui se choisissent comme amies et amantes. Ce mot fait partie d'une réalité culturelle caribéenne.
Et
bien qu'Audrey Lorde continue de s'identifier comme une lesbienne noire, elle a découvert ce terme caribéen qui lui permet de s'enraciner. Et c'est tout naturellement qu'elle découvrira dans sa relation à Gloria Joseph, sa dernière compagne, une communauté de femmes
as lovers and friends,
qui s'adoptent à la fois comme amies et amantes.
Après son arrivée à Sainte-Croix et comme nous avons décidé de vivre ensemble, Audrey s'est adaptée à un nouvel environnement, à une nouvelle culture assez facilement. En particulier parce que ce déménagement ne s'est pas fait de façon brutale et aussi parce que nous avons fait en sorte que nos attentes ne soient pas trop grandes. Elle était émue par les langues qu'elle entendait parler, les dialectes, la nourriture qui lui rappelait chez elle, le vent, la mer, les plages de sable blanc et l'impression qu'elle avait de pouvoir se faire du bien au sein d'une communauté de femmes noires.
Audrey returned to New York several times during the year, but the majority of the time she spent combing the beaches of St. Croix, where she now called home.
Audrey est repartie à New York plusieurs fois cette année-là, mais la plus grande partie de l'année, elle l'a passée à se promener le long des plages de Sainte-Croix, de cette île qui était devenue chez elle.
La lune, marquée et tachée par le soleil. Ma magie n'est pas écrite. Mais quand la mer se retirera, elle laissera ma silhouette derrière elle. Je ne recherche pas de faveur. Libre de sang. Impitoyable comme la course de l'amour. Définitive comme mes erreurs. Ou ma fierté. Je ne mélange pas amour et pitié, ni haine et malédiction. Et si vous m'avez connue, regardez dans les entrailles d'Uranus, là où se broient les océans infatigables. Je ne m'appesantis pas sur ma naissance ni sur mes divinités. Qui suis-je sans âge et à moitié grandi, et encore à la recherche de mes sœurs? Sorcières en Dahomey, qui me portent enveloppées de leurs vêtements, comme notre mère l'avait fait, en pleurant. Je suis femme, depuis longtemps. Prenez garde à mon sourire. Je trahis la magie ancienne et le nouveau démon de midi, ainsi que tous vos vastes futurs. Promis, je suis femme et je ne suis pas blanche.
Thank you. Audrey Lorde, poète guerrière. Une émission de Charlotte Bien-Aimée et Annabelle Brouard. Prise de son, Élodie Royer et Philippe Bredin. Mixage, Valérie Lavalard. Avec Rina Nissim, éditrice. Alexis Deveau, biographe. Claudine Reynaud, professeure de littérature anglophone à l'Université Montpellier III. Magali Calise, traductrice. Gloria Joseph, compagne d'Audrey Lorde. Françoise Vergès, auteure. Gertie Dumbery, auteur-metteur en scène. Sabrine, Marouni et Zolane Gonneau, féministes du collectif Lesbian of Color. Lecture, Rebecca Chaillon, Marie-Julie Chalut. Traduction, Frédéric Pressman. Extrait du film de Dagmar Schultz, Audrey Lorde, Berliners, 1982-1992. Coordination, Irène Omelianenko. Attachée d'émission, Claire Poinsignon. Merci à Dagmar Schultz, Jules Falquet et Fanny Essier.